VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia à la présentation. Bienvenue dans cette édition de 19h30 TU. On est vendredi 23 juin 2017 au sommaire. Des experts de l'ONU pour enquêter sur les violences dans le Kasaï, en République démocratique du Congo. Sommet de Kampala sur les réfugiés, l'ONU à la recherche de 2 milliards de dollars. Antonio Guterres appelle à la solidarité. Nous ferons également le point sur la visite de la directrice de l'OMS pour l'Afrique en Centrafrique.
Les statistiques montrent que la Centrafrique est le deuxième pays où on a une très forte mortalité maternelle et infantile.
Nous ferons le point dans la deuxième partie de cette édition. Et l'Arabie Saoudite qui envoie au Qatar une liste de 13 demandes et veut une réponse dans les 10 jours. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. La région de l'extrême nord du Cameroun, proche du Nigeria, de nouveau ciblée ce vendredi par des attentats suicides. Le bilan fait état de 3 morts, des femmes kamikazes. L'on dénombre également 2 blessés parmi la population. Précision avec Emmanuel Jultap à Yaoundé.
L'une des 2 femmes kamikazes est parvenue à se faire exploser, tuant au passage la deuxième. Les dégâts ont été limités grâce à la collaboration des membres d'un comité de vigilance. Aboubakar Mahama Ali, journaliste de Radio Sava FM à Moura.
Un comité de vigilance, il les avait aperçus et tout de suite il a alerté le commandant d'armes de la place.
Prompte intervention des forces de défense camerounaises qui ont aussi abattu ce même vendredi une femme kamikaze à Amchide, une ville de l'arrondissement de Kolofata dans l'extrême nord. Colonel Badjek, porte-parole de l'armée camerounaise, souligne sur son compte Facebook que, citation, cette situation fait l'objet d'une conduite opérationnelle et le haut commandement prend acte de ces évolutions qui rentrent dans le cours normal d'une guerre. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté ce vendredi une résolution prévoyant l'envoi d'un groupe d'experts pour enquêter sur les violences dans le Kasaï, en République démocratique du Congo. Le point avec Solange Nyamulisa.
Le texte adopté par consensus par les 47 pays membres demande au haut commissaire aux droits de l'homme d'envoyer une équipe d'experts internationaux et de la région. Ils devront recueillir des informations sur ce qui s'est passé dans le Kasaï, déterminer les faits et les circonstances, puis partager leurs conclusions avec l'ONU et Kinshasa. La résolution demande à la RDC de coopérer avec ses experts et veiller à ce que les auteurs des crimes soient jugés par la justice congolaise. L'ONU, l'Union européenne et les États-Unis souhaitaient au début la création d'une mission indépendante d'enquête. Kinshasa n'en voulait pas et un compromis a été trouvé avec les pays africains. Le haut commissaire a de nouveau accusé mardi les autorités congolaises de soutenir une milice au Kasaï. Selon l'Église catholique, ces violences ont fait plus de 3000 morts en 8 mois.
Toujours en République démocratique du Congo, les évêques catholiques invitent les Congolais à se mobiliser pour demander l'application intégrale de l'accord de sortie de crise entre pouvoir et opposition. À l'issue de l'Assemblée générale de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, les évêques ont annoncé une campagne de mobilisation. 200 agents ont été désignés par les 47 diocèses pour initier les Congolais à l'organisation de manifestations pacifiques. En Côte d'Ivoire, le procès du fils de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo pour divulgation de fausses nouvelles a été reporté à la semaine prochaine. Michel Gbagbo devait comparaître en même temps que le français Laurent Depas, directeur général du site d'information en ligne Kwasi.com. Les deux hommes avaient été inculpés le 26 mai 2016, mais laissés en liberté. Dans un entretien avec Kwasi.com, Michel Gbagbo y déclarait qu'à la date du 30 mars 2016, 250 personnes étaient encore détenues dans les prisons ivoiriennes et que 300 personnes inculpées et placées sous mandat de dépôt depuis 2011 étaient portées disparues. Le président tanzanien John Magufuli crée la polémique. Il a soutenu que les écolières tombées enceintes ne pouvaient pas poursuivre leur scolarité après leur accouchement, suscitant l'indignation des organisations de défense des droits des femmes qui qualifient les propos d'inacceptables et de répugnants. Un rapport de l'ONG Human Rights Watch publié le 16 juin avait affirmé que des responsables d'écoles de Tanzanie effectuaient des tests de grossesse afin d'expulser les élèves enceintes, les privant ainsi de leur droit à l'éducation. En Tunisie, une dispute meurtrière entre deux jeunes a dégénéré en violence tribale près de Sidi Bouzid, dans le centre du pays. Les deux jeunes appartenant à des tribus différentes. Après donc ces affrontements, le conflit a dégénéré et des proches de la famille de la victime ont incendié trois maisons appartenant à des membres de la tribu de l'auteur du crime.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Theresa May a promis que personne ne serait expulsé de la Grande-Bretagne après le divorce avec l'Union européenne. Londres veut offrir aux citoyens européens la régularisation de leur statut pour pouvoir rester au Royaume-Uni. Plus de 3 millions de ressortissants européens sont concernés. Eki Abadou.
Selon le projet du gouvernement britannique, les citoyens européens présents au Royaume-Uni depuis 5 ans se verront accorder un droit de résidence et jouiront des mêmes avantages qu'un Britannique en termes de santé ou même de travail. Les Européens n'entrant pas dans cette case auront un délai pour demander la régularisation de leur statut. Trop peu, trop tard, offre ridicule, projet bancal, voire pathétique, ont réagi certains Européens installés au Royaume-Uni après la présentation du projet de la Première ministre britannique sur leur statut post-Brexit. Une organisation qui défend les droits des expatriés estime également que la proposition laisse nombre de questions sans réponse, sans aucune garantie de leurs droits et fait peser un risque considérable sur les ressortissants européens en Grande-Bretagne. Leur statut pourrait devenir le même que pour n'importe quel immigré. Le Royaume-Uni a voté il y a un an, jour pour jour, en faveur du Brexit, après une campagne où le rejet de l'immigration en provenance de l'Europe a été un thème central.
Une liste de 13 demandes, c'est ce qu'a envoyé l'Arabie Saoudite et ses alliés du Golfe à Doha. Le ministre d'État émirati aux Affaires étrangères, Anwar Gargash, a pressé le Qatar de prendre au sérieux la liste de demandes de ses voisins du Golfe pour une sortie de crise, faute de quoi le divorce sera consommé. Salwa Diafari.
13 conditions figurent sur cette liste. Les plus saillantes, la réduction des relations avec l'Iran, la fermeture de la chaîne de télévision Al Jazeera et d'une base militaire turque sur son sol. Le chef de la diplomatie émiratiste s'est exprimé sur Twitter après diffusion d'informations de presse, disant que le Koweït, qui joue le rôle de médiateur, avait remis à Doha la liste en question. Le ministre émirati a accusé le Qatar d'avoir révélé la liste des demandes, ajoutant que Doha cherche à faire échouer la médiation menée par le Koweït. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte et le Yémen ont rompu le 5 juin leurs relations avec le Qatar. Les Émirats Riyad et Manama ont également fermé leurs frontières terrestres et maritimes avec l'Émirat gazier et lui ont imposé de sévères restrictions aériennes.
La CIA avait averti le président Barack Obama dès août 2016 que les piratages du Parti démocrate avaient été ordonnés par Vladimir Poutine lui-même dans le but de nuire à Hillary Clinton et d'aider Donald Trump. C'est ce que révèle le Washington Post aujourd'hui. Ce n'est qu'en janvier 2017 que les États-Unis accuseront nommément le président russe d'avoir cherché à déstabiliser le système électoral américain. Le président Trump continue de déclarer que les actions présumées de la Russie n'ont eu aucun impact sur son élection. La Corée du Nord a démenti avoir torturé l'étudiant américain décédé aux États-Unis après avoir été libéré dans le coma. Otto Warmbier a passé 18 mois dans une prison nord-coréenne. Il avait été condamné à 15 ans de travaux forcés pour le vol d'une affiche de propagande. Au Pakistan, double attentat dans un marché bondé à l'approche des festivités de l'Eid el-Fitr a fait au moins 11 morts dans une localité principalement chiite dans le nord-ouest du pays. Les musulmans chiites, qui représentent environ 20% de la population pakistanaise, sont considérés comme des hérétiques par nombre de groupes armés pakistanais d'obéissance sunnite qui les prennent régulièrement pour cible. L'épidémie de choléra au Yémen pourrait atteindre le seuil des 300 000 cas à la fin août, a averti le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'épidémie a déjà fait 1 265 morts, dont un quart d'enfants. L'Arabie saoudite, qui dirige une coalition militaire arabe contre les rebelles houthis, a annoncé une aide de 66,7 millions de dollars en faveur du programme de lutte contre le choléra. Manifestation de soutien au peuple palestinien en Iran. Des slogans hostiles à la famille royale saoudienne et au groupe État islamique ont été entendus ce vendredi lors de manifestations organisées à travers le pays pour la journée de Jérusalem. Vous écoutez le journal Le Monde aujourd'hui. À présent, la page économique présentée par Jacques Aristide.
La République démocratique du Congo s'attend à une production de cuivre record cette année, soit 1,05 million de tonnes. C'est le niveau le plus élevé depuis 2014, lorsque le pays avait produit 1,03 million de tonnes, avant que le prix du cuivre ne chute suite à la baisse de la demande de la Chine. La Chambre des mines congolaises prévoit également une augmentation des productions d'or et de cobalt en 2017. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont entamé des discussions avec le groupe Bolloré à Paris sur la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya, selon politiqueafrique.info. Les ministres du transport, l'ivoirien Amadou Koné et le burkinabé Souleymane Soulama y ont pris part. Les travaux, dont le démarrage n'est pas encore connu, devraient coûter environ 262 milliards de francs CFA. L'Afrique du Sud compte poursuivre son coûteux programme nucléaire. Le pays, qui possède les deux seuls réacteurs du continent, veut se doter de 6 à 8 nouveaux réacteurs d'une capacité totale de 9600 mégawatts au coût de 1000 milliards de randes. Le président Jacob Zuma, assurant que le pays va bientôt sortir de la récession, a déclaré hier que l'expansion nucléaire se ferait à une échelle que le pays peut se permettre.
Tout de suite, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Coupe des Confédérations, le Cameroun au pied du mur dans les derniers matchs de poule ce week-end.
Oui, après une défaite 2-0 face aux Chiliens, lors de leur premier match, les Camerounais ont concédé hier un nul fâcheux, 1-1 face aux Australiens dans le groupe B. Les champions d'Afrique se doivent donc de battre les Allemands ce dimanche à Sotchi s'ils veulent avoir une chance de disputer les demi-finales. Même enjeu pour l'Australie qui se mesure au Chili au même moment. Dans le groupe A, le Portugal et le Mexique n'ont besoin que d'un nul demain samedi pour passer en demi-finale. La Russie, elle, doit a priori absolument l'emporter afin d'éviter une élimination dès le premier tour. À suivre donc ce samedi, Mexique, Russie et Portugal, Nouvelle-Zélande, puis dimanche, Cameroun, Allemagne et Chili, Australie.
Marché des transferts, Mohamed Salah quitte l'AS Roma pour Liverpool.
Oui, l'international marocain s'est engagé pour 5 en faveur des Reds. Liverpool aurait déboursé autour de 40 millions d'euros dans l'opération. Au terme d'une saison pleine avec la Roma, 15 buts et 13 passes décisives en 31 matchs de Serie A, les Lions de 25 ans vont devoir s'imposer en Première Ligue anglaise après avoir éclaboussé la Serie A en Italie de son talent.
Justice espagnole, Messi pourrait voir sa peine de prison transformée en amende.
Effectivement, le parquet de Barcelone est disposé à ce que la peine de 21 mois de prison de Lionel Messi soit remplacée par une amende de 400 euros par jour pendant la même période. La star du FC Barcelone a vu sa condamnation confirmée par la Cour suprême espagnole le 24 mai dernier. Il appartient désormais à la Cour d'appel de Barcelone de décider si la peine de prison doit ou non être exécutée.
Et pour terminer, nous sommes le 23 juin, journée mondiale de l'olympisme.
Oui, et à l'occasion, Paris sort le grand jeu et tente une opération séduction afin de démontrer qu'il y a un réel engouement populaire derrière sa candidature à l'organisation des Jeux Olympiques en 2024. Pour cela, les pelouses de l'Esplanade des Invalides, qui va accueillir en cas de succès parisien, les épreuves de tir à l'arc deviennent le temps de ce week-end des terrains de volley-ball, de foot ou encore de badminton. Le plus spectaculaire, c'est une piste flottante d'athlétisme de 100 mètres sur la Seine, au cœur de la capitale parisienne. Autre attraction, un plongeoir à 2 étages pour des démonstrations réservées à des professionnels.
Merci Yacouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté une résolution prévoyant l'envoi d'un groupe d'experts internationaux pour enquêter sur les violences dans le Kasaï en RDC. La RDC, qui apportera un appui technique et logistique, et les auteurs des crimes devront être jugés par la justice congolaise. Nathalie Barge a joint à Genève Lise Trossel, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme.
La résolution adoptée à l'unanimité au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies appelle le haut commissaire à nommer une équipe d'experts internationaux, inclus des experts de la région, pour enquêter, je cite, sur les violations du droit international humanitaire et les violations des droits de l'homme dans la région de Kasaï. Et l'équipe des experts mènera son enquête de manière entièrement indépendante, dans le respect des normes internationales et conformément au mandat qui lui a été conféré par le Conseil. Et la résolution stipule aussi que le haut commissaire présentera un rapport complet avec les conclusions de l'équipe au Conseil des droits de l'homme.
Comment vous assurer qu'il n'y aura pas d'entrave à cette enquête et qu'elle pourra être effectuée en toute indépendance?
Le haut commissaire a dit qu'il compte sur la pleine coopération des autorités, en particulier pour nous octroyer un accès illimité à tous les sites, dossiers, individus et lieux concernés. Et aussi, la résolution réitère clairement l'importance d'assurer la protection de toutes les personnes qui collaborent avec l'équipe, ce qui souligne la nécessité que le groupe d'experts opère en totale indépendance.
Est-ce que, selon vous, Kinshasa va vraiment permettre un accès partout où vraiment la commission d'enquête voudra se rendre?
Nous espérons, et le haut commissaire a dit qu'il compte sur la coopération des autorités. C'est très important et c'est surtout très important pour les victimes. Les personnes qui ont été tuées, mutilées, soumises à des violences indescriptibles ou forcées de quitter leur maison. Il y a quelques jours, le haut commissaire a dit que la situation humanitaire et des droits de l'homme s'est considérablement détérioré dans les provinces de Kasaï central et de Kasaï oriental. Et le haut commissaire a dépêché une équipe d'enquêteurs à Angola pour interroger les nouveaux réfugiés provenant de Kasaï. Et ces enquêteurs ont entendu des témoignages déchirants et ont vu des scènes atroces.
C'était Lise Trossel, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Des milliers de réfugiés nigérians qui ont fui les atrocités commises par Boko Haram sont pris au piège dans le nord du Cameroun dans des conditions extrêmement difficiles. Ils sont massés dans un camp de fortune non loin d'un autre camp similaire abritant quelques 2000 déplacés camerounais. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Kolofota, présenté ici par Lionel Gaïma.
Hey. Good morning.
L'afflux est quotidien. Tous les jours, des dizaines de réfugiés nigérians arrivent dans ce camp non loin de Kolofata, dans l'extrême nord du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria. Parmi eux, un berger de 51 ans, Ibrahima Daouda, qui a fui son village de Gamborungala dans l'état de Borno juste après une attaque de Boko Haram.
Nous avons peur de Boko Haram et c'est pourquoi nous avons fui pour venir ici. Il tue les gens, il les égorge ou les brûle vivants. J'avais l'habitude de vendre du bétail à Lagos ou ailleurs. Maintenant, je suis réduit à ne rien faire et nous n'avons pas assez à manger.
Près de 1200 personnes sont arrivées récemment dans le camp. En deux semaines, pas moins de 20 kamikazes ont ciblé ce lieu ou les villages environnants. Midjiawa Bakari est gouverneur de la région du nord du Cameroun.
Nous sommes formels. Ce site n'est pas sécurisé. Le retour général dans le cadre de la tripartite signée par le Cameroun, le Nigeria et le ACR prendra effet à partir du 15 juillet. Il est bon qu'ils retournent chez eux.
Certains réfugiés demandent à être transférés au camp de Minawao. René Emmanuel Sadi, ministre camerounais de l'administration territoriale,
affirme que ce camp est surpeuplé. Créé pour accueillir 25 000 réfugiés, il en abrite maintenant 75 000 personnes, soit le triple de sa capacité, avec une légère baisse le mois dernier lorsque certains réfugiés ont décidé de retourner chez eux. Avec l'intensification des raids de l'armée nigériane sur les positions des djihadistes dans la forêt de Sambisa, il n'y a plus de place pour de nouveaux réfugiés à Minawao, estime le ministre René Emmanuel Sadi.
Nous ne pouvons plus envoyer des gens là-bas. Et avec l'autorisation des autorités nigérianes à la frontière, nous organisons leur retour dans leur localité d'origine où ils pourront vivre en sécurité.
Roselyne Okoro est représentante du HCR chargée de la protection des réfugiés. Selon elle, le rapatriement forcé est une sérieuse violation des conventions des réfugiés de 1951 et celle de l'Organisation de l'Unité africaine de 1969, que le Cameroun a ratifiée.
La protection des réfugiés et la protection de son territoire, son pays, ses citoyens, les deux ne s'excluent pas.
En dehors des réfugiés, le nombre de déplacés internes au Cameroun a fortement augmenté. Rien que pour ce camp près de Kolefata, en émoi, le nombre est passé de 9 000 à 19 000. Au début du mois, l'ONU a encore mis en garde sur les dangers de se rendre dans l'extrême nord du Cameroun, disant que l'arrestation d'un commandant de Boko Haram à Kousseri risque de relancer les attaques de djihadistes. Mais Yaoundé n'a pas confirmé cette arrestation.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
La directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, Dr Rebecca Moeti-Matshidiso, était en Centrafrique pour apporter l'appui de l'OMS au gouvernement centrafricain dans son plan de relèvement et de consolidation de la paix. Cette visite s'inscrivait aussi dans le cadre du lancement du programme de lutte contre la mortalité maternelle et infantile, ainsi que la prévention des maladies transmissibles et épidémies en Centrafrique. Le point avec le représentant de l'OMS dans le pays, Dr Michel Yao, joint par Félix Yepassi-Zebro.
Sa visite aussi répond au souhait de supporter des initiatives qui visent à faire face aux problèmes majeurs de santé publique ici en Centrafrique, notamment la très forte mortalité maternelle et infantile. Les statistiques montrent que la Centrafrique est le deuxième pays où on a une très forte mortalité maternelle et infantile. Et puis enfin, la visite s'inscrit un peu dans le sens d'encourager l'équipe de l'OMS ici qui a travaillé dans des conditions difficiles pour apporter l'appui nécessaire au ministère de la Santé et aux différents partenaires. L'OMS peut apporter un appui adéquat au ministère de la Santé pour d'une part répondre aux urgences et d'autre part permettre le relèvement des services de santé.
Docteur, en ce moment, le pays fait face à une épidémie de maladies transmissibles. Quelles mesures ont été prises par l'OMS pour endiguer ce fléau?
Et dans ce cadre-là aussi, sa visite a été opportune pour lancer l'introduction du vaccin à méningocoque A dans le programme élargi de vaccination. On sait que la République centrafricaine se trouve dans les zones à risque et ce vaccin a fait ses preuves dans certains pays où les épidémies étaient récurrentes, mais avec l'introduction de ce vaccin et accompagné, qui ont succédé du moins à une campagne nationale, a permis de réduire. Donc en Centrafrique, la campagne nationale a été faite malgré les conditions de sécurité. Et là, il s'agit de l'introduire au niveau du programme élargi de vaccination pour les enfants. La visite a été l'occasion aussi à la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique de visiter le centre des opérations et de voir un peu la différence qui a été faite avec ce centre, surtout dans le cadre de la réponse à l'épidémie de choléra ou qui a été contrôlée en moins de 3 mois malgré les facteurs de risque qui étaient des problèmes d'assainissement, mais aussi des problèmes liés aux populations déplacées qui vivent dans les conditions précaires. Il s'agit maintenant de mobiliser plus de ressources pour accompagner le pays, pour restaurer les services, parce que les services forts permettent de détecter à temps des épidémies et aussi d'apporter une réponse efficace.
C'était le docteur Michel Yao, représentant de l'OMS en Centrafrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'Arabie Saoudite et ses alliés du Golfe ont sommé le Qatar de prendre au sérieux une liste de demandes de ses voisins, dont une rupture des relations avec l'Iran et la fermeture de la chaîne Al Jazeera pour mettre fin à la crise du Golfe. Pour analyse, John Lyndon a joint Nabil Enarsi. Il est auteur de l'énigme du Qatar. Il est également directeur de l'Observatoire du Qatar.
Un discours critique à l'endroit des régimes autoritaires du monde arabe et musulman, média plus ou moins indépendant, en tout cas un média qui a ces dernières années adopté une posture de critique parfois frontale à l'adresse de l'autoritarisme des pays, des États de la région. Les États de la région étant, notamment dans le Golfe, des dynasties autoritaires qui n'acceptent pas de contestation, la voix discordante d'Al Jazeera sonnait comme une forme de concurrence mal placée vis-à-vis de régimes qui voulaient étendre leur pouvoir de manière quasi absolue. Donc en face d'un média qui avait une vraie reconnaissance populaire, qui était lu et écouté dans l'ensemble du monde musulman et même au-delà, les régimes tout simplement du Golfe ont souhaité faire taire toute forme de critique provenant des États du Golfe, donc en ciblant le Qatar et la chaîne d'Al Jazeera.
Alors, mais on accuse quand même aussi Al Jazeera d'être proche des islamistes et des frères musulmans.
Elle est d'une certaine manière proche des islamistes, notamment des frères musulmans, dans la mesure où ces frères musulmans remportent les élections quasiment à chaque fois où des scrutins libres et transparents sont organisés dans le monde arabe. Donc on ne peut pas dire qu'elle fait le jeu des frères musulmans pour la bonne et simple raison que cette formation, qu'on veuille ou non, détient, possède une assise populaire tellement large que lorsqu'on a des élections, ça se vérifie en Égypte, en Tunisie et ailleurs, dans le monde arabe, lorsqu'elles sont libres et transparentes et non pas évidemment truquées et télécommandées, eh ben, vous avez des peuples qui s'expriment majoritairement ce courant de l'islam politique. Et ce courant de l'islam politique constitue, si vous voulez, l'acteur dominant de l'offre politique arabe dès lors qu'elle est libre et transparente. Al Jazeera, puisqu'elle est le reflet des aspirations populaires dans le monde arabe, a eu naturellement un espèce de compagnonnage de route avec cette formation, mais non pas par affinité idéologique, mais plutôt par réalité empirique sur le terrain.
Alors, comment voyez-vous l'avenir de cette chaîne de télévision? Est-ce qu'elle peut survivre sans l'apport financier des autres pays du Golfe, y compris l'Arabie Saoudite?
Alors, elle peut effectivement vivre sans apport financier des pays du Golfe, puisque c'est le Qatar qui la finance. La crise va durer effectivement, puisque maintenant les tensions sont très fortes. On est quasiment arrivé à un point de non-retour eu égard à la polarisation des points de vue des uns et des autres. Mais Al Jazeera maintiendra sa couverture de l'actualité telle qu'elle l'a toujours été et même renforcera davantage son esprit critique à l'égard des pays riverains du Golfe du Qatar.
C'était Nabil Enasri, auteur de L'énigme du Qatar.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa!
Notre amour a tourné comme...
Et c'est sur ce titre « Toi et moi » de Layana qu'on se quitte. Un choix de Michel Joseph qui a d'ailleurs réalisé cette édition. À la console, Robert Wagner, Abdourahmane Dia, présentation. Merci d'avoir suivi et bon week-end à tous.